Supercell.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient comme tous les jours. RFI vous propose de commenter l'actualité et ce matin nous parlerons de Robert Mugabe puisque le président zimbabwéen va célébrer son 91e anniversaire en grande pompe. Demain, un concert géant sera donné à Harare dans la capitale. Samedi, 20 000 personnes seront conviées à une fête en l'honneur du doyen des chefs d'État africains. Des festivités qui font polémique. L'opposition par exemple critique les sommes dépensées alors que la majorité de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Les organisations de protection des animaux sont également vent debout car de la viande d'éléphant, de lion et d'antilope sera proposée aux invités. Alors quelle image avez-vous de Robert Mugabe? Dictateur pour certains, panafricaniste pour l'autre. En tout cas, l'homme ne laisse pas indifférent. Vos réactions sont nombreuses déjà sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission. Plus de 400 commentaires postés. J'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure. Nous essaierons également ensemble de comprendre la longévité de Robert Mugabe à la tête du Zimbabwe. Cela fait maintenant 35 ans qu'il dirige le pays d'une main de fer. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Mais d'abord, c'est votre rendez-vous quotidien avec la rédaction d'RFI. Tous les matins, vous le savez, nous répondons à vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Nous avons reçu plusieurs questions sur les négociations intermaliennes qui se tiennent en ce moment à Alger. Yaya, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous nous appelez de Bamako, on vous écoute, quelles sont vos questions?
Juan, mes questions concernent la rébellion Touareg. Cette rébellion refusait de signer le cessez-le-feu sans zone tampon. Mais elle a fini par le signer sans condition. Alors, qu'est-ce qui explique cela et quel impact peut avoir cet accord sur la suite des négociations?
Alors, la semaine dernière, il y a tout juste une semaine d'ailleurs, le gouvernement malien et 6 groupes armés se sont effectivement engagés à mettre fin aux hostilités. Tous les acteurs qui sont présents en ce moment à Alger ont signé une déclaration censée justement encadrer la cessation immédiate des combats dans le nord du pays. Bonjour Serge Daniel.
Juan, bonjour et Yaya, bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes l'un des correspondants d'RFI à Bamako. Ce qu'il faut dire déjà, c'est que ce n'est pas la première fois qu'un cessez-le-feu est conclu.
Ah non, c'est pas la première fois, vous avez raison. C'est la 4e fois qu'un cessez-le-feu est signé entre l'armée malienne et les groupes rebelles, et entre les groupes rebelles eux-mêmes sur le terrain. La quatrième fois qu'un accord de cessez-le-feu est signé, Juan, mais c'est la 11e fois que ce cessez-le-feu est violé. Il fallait le souligner.
Qu'est-ce qui explique que les rebelles Touareg aient finalement accepté, une fois de plus, de signer un cessez-le-feu? Est-ce qu'ils ont obtenu quelque chose en échange?
Non, les rebelles Touareg et le Gatia notamment, le Gatia qui est le groupe d'autodéfense constitué essentiellement des Touareg de la tribu des Imrades. Le problème, Walt, c'est qu'il y avait des négociations à Alger. Et pour aller négocier, pour négocier en position de force, chaque camp a estimé qu'il fallait agrandir les terres, le territoire qu'il contrôle. Donc le Gatia, tout s'est limité essentiellement à Tabankort, c'est-à-dire une localité située entre Gao et Kidal, c'est un verrou important, et chaque camp voulait maîtriser, voulait conquérir cette zone-là qui est au mains du Gatia, c'est-à-dire que les rebelles Touareg voulaient déloger le Gatia de cette terre-là, ils n'ont pas pu, et finalement disons qu'il y a eu une pression d'abord de la communauté internationale, notamment de la mission de l'ONU au Mali, mais également de la France, de tous les pays, pour que ils acceptent de cesser de signer ce cessez-le-feu. On ne peut pas négocier en faisant la guerre, voilà le point de vue des médiateurs, et donc ils ont obligé les deux parties à signer ce cessez-le-feu.
Et les deux parties se sont ensuite engagées à poursuivre la négociation dans un esprit constructif, c'est ce que je cite, ça fait partie noir sur blanc du document signé la semaine dernière à Alger. Ça signifie quoi, Serge Daniel, que maintenant avec ce cessez-le-feu, on va pouvoir aller plus vite dans les négociations et parvenir à un accord sur le statut du nord du Mali?
En principe, ce qui sait, ça permet de faire le point sur les négociations d'Alger. Ce qui se passe actuellement à Alger, c'est que la partie malienne a, sur un document présenté par la médiation, la partie malienne a fait des observations. Les groupes rebelles ont également fait des observations. Et la médiation est actuellement en train d'intégrer, de proposer un nouveau texte aux belligérants, un nouveau texte à signer. Mais il semble que ça va se passer en deux phases. C'est-à-dire que dans une première phase, le document, un nouveau projet d'accord sera proposé par les médiateurs, c'est l'Algérie, l'ONU, tous les pays, la France, tous les pays qui sont en train d'appuyer la médiation, et que chacun devrait avoir au moins une semaine pour discuter, pour réfléchir sur les textes, et pourquoi pas pour retourner à la base, pour expliquer le nouveau texte aux groupes armés et au gouvernement malien, parce que ce sont des envoyés du gouvernement malien qui sont là-bas, et qu'après on puisse envisager dans un second temps la signature de l'accord, pas à Alger, mais plutôt à Bamako, comme le souhaitait le gouvernement malien. Ouais.
Je vais me faire le porte-parole de Modi, également à Bamako, mais le réseau de téléphone est trop mauvais pour le prendre à l'antenne. Il nous dit, voilà, avec ce cessez-le-feu signé à Alger, cela signifie que les positions des différents groupes sur le terrain vont probablement se figer. Quelles sont les positions actuelles des groupes armés sur le terrain? C'est une bonne question, Serge, parce que c'est vrai que ces derniers mois, on a assisté à une multiplication des groupes armés, et bon, quand on est un peu loin et qu'on ne suit pas forcément ce dossier au quotidien, on ne sait plus qui contrôle quoi sur place.
Exactement, c'est pour ça, pour une fois, je vous prends à témoin, Juan, je serai un peu long, moi qui suis généralement court dans votre émission. Alors, la présence des groupes armés dans le Nord dont la superficie est une fois et demie supérieure à celle d'un pays comme la France, vous avez la région de Kidal, située au Nord-Est. La principale force présente, c'est le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, constitué d'un noyau de Touareg de la tribu des Iforas, et appuyé ensuite par le MNLA, et il y a également un groupuscule dissident qui est également sur le terrain. Les forces de l'ONU sont également à Kidal, mais l'armée malienne n'est plus sur place depuis mai 2014, où elle a été, on se souvient, défaite lors d'affrontements avec les rebelles. Quand vous allez un peu plus au nord de Kidal, vous avez les forces tchadiennes de la mission de l'ONU, et maintenant dans la région administrative de Gao, vous avez l'armée malienne qui est présente dans cette capitale aux côtés des forces onusiennes. À Menaka, dans la même localité, vous avez l'armée malienne à l'intérieur d'un camp donc, qui est cloisonné, permettez l'expression, à l'intérieur du camp de la mission de l'ONU, et vous avez les rebelles qui sont dans la ville. Dans une autre localité
donc, ça signifie quoi, Serge, si je comprends bien, qu'à Menaka, par exemple, ville que vous venez de citer à l'instant, l'armée malienne ne peut pas sortir de ce camp, elle est donc cantonnée?
Mais voilà, c'est la réalité, la stricte réalité, elle est cantonnée à l'intérieur du camp de la mission de l'ONU. Elle n'a pas le droit de sortir. Lorsqu'on pose la question à l'ONU, il n'y a pas beaucoup de personnes pour répondre. En tout cas, l'accord de cessez-le-feu demande à ce que les positions soient figées, c'est-à-dire que chacun reste là où il se trouve. L'armée malienne est à l'intérieur de ce camp. Pour revenir dans la même région de Gao, Tabankort, j'en parlais tout à l'heure, c'est un verrou important entre Gao et Kidal, c'est la base du Katiab dans le nord, c'est-à-dire le groupe d'autodéfense des Touaregs de la tribu des Imrat, qui est un allié de taille du gouvernement malien. Et sur place également, on a une autre branche du mouvement arabe de l'Azawad qui est pro-gouvernement. Ces deux groupes sont également, présents dans d'autres localités. Et très rapidement au nord-ouest, vous avez dans la ville de Tombouctou des casques bleus de l'ONU, l'armée malienne, mais dans des localités voisines comme Ber, on retrouve des groupes armés rebelles. Mais ce qui frappe dans les trois régions du nord, et c'est que souvent à une vingtaine de kilomètres à la ronde des trois capitales régionales, vous avez des populations qui sont abandonnées à elles-mêmes, sans présence de l'État, ce qui fait qu'elles sont souvent attaquées par des bandes armées. Mais je vous vois venir, il faut souligner que dans les trois régions administratives de la région, des régions du nord du Mali, pardon, et j'aurais dû commencer par l'Arwan, on a la présence des groupes islamistes, djihadistes, terroristes, c'est-à-dire Al-Qaïda au Maghreb islamique, en Sardine, et notamment le Moujaou.
Et on précise que ces groupes liés à Al-Qaïda sont exclus des négociations qui sont en cours en ce moment à Alger. Merci beaucoup Serge Daniel, vous avez pris le temps, mais c'était intéressant et c'est important de temps en temps effectivement de replanter le décor et de donner le maximum de détails pour comprendre cette crise au nord du Mali. On peut en parler d'ailleurs demain dans la Libre Antenne, puisque vous connaissez le principe du vendredi, vous commentez l'actualité de votre choix. Philippe Zigrave du service des sports d'RFI nous rejoint. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Spécialiste du football africain. africains au sein de la rédaction, on peut le dire, vous connaissez à merveille le football africain. On a des questions, on vous a demandé de venir parce qu'on a reçu des questions concernant la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Certains disent, mais voilà, mais c'est loin, mais en fait, dans quelques semaines, la Confédération africaine de football va désigner le pays organisateur de la 31e édition. Bienvenue, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Félix Digraf, et bonjour à Serge Daniel Zongbogbo. C'est un Béninois, vous le savez, je viens de l'entendre.
Oui, il était avec nous à l'instant, effectivement, pour répondre à des questions sur le Mali. Bienvenue, quelles sont vos questions donc?
Eh bien, avant même que la CAF ne désigne ce pays organisateur, dans quelques semaines justement, l'Égypte, qui est candidate à la CAN 2017, a retiré sa candidature le week-end passé, c'est-à-dire le dimanche, justement. Moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce que l'Égypte a retiré sa candidature. Est-ce que cela est lié uniquement aux heurts qui ont été survenus au stade il y a 2 semaines?
Ah oui, d'ailleurs, entre la police et des supporters du club de Zamalek au Caire, Philippe Zigraf, est-ce que ces incidents d'il y a 2 semaines ont pesé finalement sur la décision de l'Égypte de ne plus briguer l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations?
Oui, alors quand on parle de heurts, le mot est faible, puisqu'on rappelle quand même, on va rappeler en quelques instants, il y a
une vingtaine de morts.
Plus de 20 morts, hein, oui. Effectivement. C'était le 8 février, mouvement de foule avant un match de championnat important, les supporters de Zamalek sans billets qui veulent pénétrer dans le stade, la police qui envoie des gaz lacrymogènes, panique, bousculade, et plus de 20 personnes sont mortes, étouffées. Alors ce qui est terrible, c'est que la grande majorité de ces victimes avaient des billets, elles étaient en train d'entrer dans le stade, on avait limité les places à 10 000, et elles ont été piétinées par les ultras sans billets, eux, qui tentaient d'échapper aux forces de l'ordre et aux lacrymogènes.
Un nouveau drame, presque 3 ans, jour pour jour, après celui de Port Saïd.
Oui, qui avait fait plus de 70 morts à l'issue d'un match entre Al Masry et le national. Là, c'était une bagarre entre supporters, ce qui avait incité le gouvernement à suspendre le championnat d'Égypte de football, championnat qui avait repris en 2013 à huis clos, avec un faible quota de spectateurs dans les stades. On avait déjà rouvert les portes, hein, pour les matchs internationaux, pour les sélections, pour les clubs, et le match de Zamalek était le premier où 10 000 spectateurs maximum, hein, étaient autorisés dans le stade. Autant dire effectivement que ce nouveau drame a jeté un froid, que le championnat a été suspendu. Il reprendra d'ailleurs normalement à la fin du mois de mars, après les 40 jours de deuil qui ont été décrétés par le gouvernement. Ça n'est pas encore décidé, mais c'est vrai que ces événements ont énormément pesé dans cette décision de retrait.
Mais ça veut dire quoi, Philippe, qu'après tous ces incidents, le gouvernement égyptien a peur de débordement en cas d'organisation de la CAN?
Oui, ça c'est clair. Alors le gouvernement craint que l'image du pays soit altérée par des incidents qui seraient provoqués par des ultras des clubs de football, car c'est par eux que les deux drames de Port Saïd et du Caire, il y a 15 jours, sont arrivés. Alors, on sait qu'en Égypte, le climat sécuritaire est instable depuis quelques années. Et les supporters de foot les plus violents, en fait, sont des électrons libres. Ils ne s'attaquent pas, entre guillemets, uniquement aux matchs et tout ce qui concerne, tout ce qui entoure les matchs. Et ils peuvent sévir en dehors des rencontres de football et notamment dans les manifestations politiques. J'en ai parlé avec Alexandre Bouchianti hier soir au téléphone.
Notre correspondant
au Caire. Et donc, il me disait, il leur serait facile à ces ultras de se servir d'un grand événement sportif très médiatisé, hein, comme la CAN. Près de 200 pays dans le monde montrent les images des matchs, mais également font des reportages sur le pays. Et donc, effectivement, il te dit que le gouvernement aurait très très peur de débordement, parce que vous disiez c'est loin encore, mais non, c'est prêt, c'est la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
Effectivement, en fait, dans moins de 2 ans maintenant. La crainte d'un climat de violence, d'insécurité, avec la complicité, si on peut dire, des forces de l'ordre.
Alors, oui, c'est un petit peu ça, parce que soit la police ne fait rien et les supporters des clubs se déchirent entre eux, exemple Port Saïd, on le disait, 72 morts, hein, c'est terrible. Soit la police intervient, comme au Caire il y a 2 semaines, on a vu ce que ça a donné. Dans tous les cas, ça dégénère et le gouvernement ne supporterait pas ce qu'on disait, que le pays soit montré du doigt.
Autre question, bienvenue, on vous écoute.
Oui, Juan, non seulement l'Égypte a retiré sa candidature pour la CAN 2017, elle a soutenu l'Égypte. Pourquoi ce soutien à l'Égypte? À l'Algérie, hein, j'allais dire.
Oui.
Pourquoi ce soutien à l'Algérie?
L'Égypte qui soutient désormais la candidature de l'Algérie, pourquoi?
Bah, ça peut surprendre, hein, surtout ceux qui suivent le football, parce que depuis 25 ans, on en a beaucoup parlé, il y a eu brouille sportive entre les deux pays, après de graves incidents, ça s'était passé fin 89 lors d'un match éliminatoire de Coupe du Monde, Algérie-Égypte, et cela avait rejailli sur les rencontres entre les deux pays dans les différentes disciplines sportives d'ailleurs. Hein, l'Algérie refusait d'aller en Égypte et vice-versa, on l'a souvent vu, et lorsqu'il y avait des confrontations sportives, eh bien souvent ça sentait la poudre. Mais la réconciliation a sonné entre les deux pays, hein, depuis l'arrivée du maréchal Sissi. Son premier voyage présidentiel d'ailleurs, bah, c'était à l'étranger, c'était en Algérie en juin 2014. Alors c'est le retour de la grande amitié, comme ils disent, en sport, hein, algéro-égyptienne, donc c'est pas étonnant que l'Égypte annonce qu'elle va soutenir ce qu'elle a dit, un pays frère.
Ouais, retour de la bonne amitié, des bonnes relations. En même temps, les Égyptiens disent c'est quand même bête qu'il y ait deux pays arabes en concurrence pour organiser la CAN.
Oui, alors le retrait peut s'expliquer aussi par cela. C'est-à-dire qu'il y a un poste en jeu de représentant de la Confédération africaine de football au comité exécutif de la FIFA. La CAF sera représentée par 5 membres répartis selon des critères linguistiques, un membre francophone, anglophone, lusophone et arabophone. Le cinquième, c'est automatiquement le président de la CAF. Alors le candidat arabophone, ben, ce sera l'Égyptien Hani Abou Rida, d'où le retrait de l'Algérien Mohamed Raourawa, le président de la fédération. Il a annoncé qu'il ne se représenterait pas à la fin de son mandat en avril prochain, sans doute pour laisser le champ libre à son collègue égyptien. Tout ça paraît un petit peu bizarre parce que sur le site de la FIFA, Mohamed Raourawa est annoncé comme candidat francophone, donc il ne serait pas en concurrence avec Hani Abou Rida. Bon, là je pense que ce qui a incité l'Égypte à se retirer, ce sont d'abord effectivement ces incidents et ce climat de violence.
Et rendez-vous donc le 8 avril hein, pour connaître le nom du pays organisateur de la CAN 2017.
Algérie, Gabon ou Ghana.
Et Ghana, effectivement, on saura ça et on suivra ça avec le service des sports d'RFI. À bientôt Philippe. On accueille David Thompson du service Afrique. Bonjour David.
Bonjour.
Des questions sur la Libye avec Michel qui nous rejoint à l'instant, il est en région parisienne. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, moi j'ai deux préoccupations, je veux dire deux questions qui portent sur la situation en Libye. Aujourd'hui, dans le chaos, par la force des gros bras du sous-monde, cette Libye qui n'a plus d'amis. Ma première question, comment établir le dialogue dans un pays déchiré par le groupe armé?
Ah, ça c'est une très bonne question David Thompson, puisque le dialogue entre les différentes factions rivales, c'est justement la solution privilégiée par la communauté internationale en ce moment.
C'est la solution privilégiée par la communauté internationale et par l'ONU. Son représentant spécial pour la Libye, Bernardino León, tente depuis des semaines de réunir autour d'une table des représentants des deux parlements et des deux gouvernements qui sont en guerre depuis le mois d'août maintenant, militairement sur deux fronts principalement, au sud de Tripoli, à lisière des montagnes du Djebel Nefoussa et autour des terminaux pétroliers dans l'Est, terminaux d'Al-Sidra notamment. Ces efforts ont eu des résultats minces, mais concrets tout de même. Le 11 février, le Bernardino León, le représentant de l'ONU, est parvenu à réunir dans la ville de Ghadames des représentants de ces deux parlements, celui de Tobrouk et celui de Tripoli. Ces discussions étaient menées de façon séparée, c'est-à-dire qu'ils étaient chacun dans une pièce différente et le représentant de l'ONU faisait le va-et-vient entre les deux. Ces discussions devaient reprendre aujourd'hui au Maroc, mais finalement elles n'auront pas lieu parce que le Parlement de Tobrouk a décidé de suspendre ces négociations.
Parlement de Tobrouk qui est le seul organisme institutionnel législatif reconnu par la communauté internationale.
Absolument, issu des élections du 25 février dernier. Et donc ces discussions n'auront pas lieu parce que elles ont été suspendues après l'attentat de vendredi dernier, revendiqué par le groupe État islamique, qui a fait 44 morts dans la ville d'Al-Kouba contre le QG du bras armé du gouvernement de Tobrouk, le général Haftar. Donc pour le moment, ces discussions, il faut bien le dire,
elles sont
suspendues, elles sont dans l'impasse, mais l'ONU cherche quand même à continuer ses efforts pour réunir ces gens autour de la
Donc
table des négociations.
Donc l'ONU va tenter de convaincre le Parlement de Tobrouk de revenir à la table des négociations.
Absolument, et in fine, l'objectif, c'est de mettre sur pied un gouvernement d'union nationale, ce qui paraît très compliqué, ce qui paraît d'autant plus compliqué aujourd'hui que depuis le mois de novembre, le groupe État islamique a fait irruption en tant que troisième acteur, si on peut dire, dans ce jeu libyen déjà très complexe. et qu'il multiplie les actions extrêmement violentes. Une trentaine d'attentats ont été revendiqués par le groupe État islamique en Libye depuis le mois de novembre, et l'EI mène une vraie offensive sur la Libye, et évidemment on n'imagine pas des représentants de l'État islamique négocier avec l'ONU et faire partie d'un gouvernement d'union nationale.
En tout cas, tant que les discussions restent bloquées, ça joue évidemment en faveur de l'organisation de l'État islamique, ça lui permet de gagner du terrain et de multiplier les exactions.
Oui, le groupe État islamique, il faut bien comprendre qu'il est apparu en novembre, et depuis, sa présence est avérée dans 4 villes, Ajdabia, Nofilia et la ville symbole du colonel Kadhafi, sa ville de naissance, Sirte.
Merci beaucoup David Thompson. Il sera 9h30 dans un instant ici à Paris, ce sera le journal et on revient dans 10 minutes.